Au fond, je crois que je n'écris que pour les enfants. Seulement, comme c'est très difficile, que ça demande une concision, une discipline intense, alors je commence par faire un brouillon, et ça donne un livre, disons pour adultes, qui s'appelle « Vendredi ou les lames du Pacifique » ou « Le roi des zones » ou « Les météores ».
Ça peut pas faire de mal.
Et puis ensuite, quand je me sentirai suffisamment fort, eh bien, j'écrirai la version définitive de ces romans. C'est déjà fait pour Vendredi ou les lames du Pacifique. Ça s'appelle Vendredi ou la vie sauvage. Et j'écrirai le roman, le vrai roman pour enfants qui se cache à l'intérieur de ce roman pour adultes.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Un journal faisait récemment une enquête sur le thème suivant. Quel sera, selon vous, le grand événement qui marquera l'an 2000 ? J'ai répondu sans hésiter, ma mort. Et d'évoquer le vaste et somptueux cortège qui accompagnera ma dépouille au Panthéon, au son de l'Allegro de la 7e symphonie de Beethoven. On me dira, pourquoi mourir en l'an 2000 ? Parce que j'aurai 76 ans. Mon père est mort à cet âge-là, comme son père, etc. C'est un bel âge pour mourir. Avec de la chance et de la raison, on évite ainsi les souffrances et les humiliations de la vieillesse, et puis basta. N'est-ce pas assez de la vie comme cela ? Celui qui annonçait sa mort en ces termes aura survécu 16 ans à sa prédiction. Il s'agit d'un grand écrivain populaire, auteur en 1967 du célèbre roman « Vendredi ou les limbes du Pacifique », vous aurez reconnu Michel Tournier. En hommage à l'écrivain disparu le 18 janvier dernier, poursuivons la lecture de sa nécrologie qu'il publie en 1986 avec une bonne dose d'humour. Né au centre de Paris, il a immédiatement compris qu'il s'agissait de la ville la plus inhospitalière du monde, en particulier à l'égard des jeunes. Aussi habita-t-il toute sa vie le presbytère d'un petit village de la vallée de Chevreuse. Après de longues études de philosophie, il est venu assez tard au roman, qu'il a toujours reçu comme une affabulation recouvrant une infrastructure métaphysique invisible. C'est en ce sens qu'on a souvent prononcé le mot de mythologie à propos de son œuvre. S'il lui fallait un ancêtre et une étiquette, on pourrait songer à Huysmans et à celle de naturaliste mystique. C'est qu'à ses yeux, tout est beau, même la laideur, tout est sacré, même la boue. À propos de l'amour, il disait « Il y a un signe infaillible auquel on reconnaît qu'on aime quelqu'un d'amour. C'est quand son visage vous inspire plus de désir physique qu'aucune autre partie de son corps. » S'il avait eu une tombe, voici l'épitaphe qu'il aurait voulu qu'on y inscrivît. « Je t'ai adoré. » Tu me l'as rendu au centuple, merci la vie. Ce soir, depuis le Salon du Livre de Paris, nous allons évoquer l'œuvre de ce conteur inlassable, Michel Tournier. Philosophe de formation, passionné de culture religieuse, il a revisité les plus grands mythes, Robinson Crusoe et bien sûr dans Vendredi, mais aussi la figure de l'ogre dans Le Roi des Aulnes, salué par le prix Goncourt en 1970. Nous évoquerons aussi un aspect de son œuvre consacré à ce qu'il considérait comme la plus grande littérature, la littérature enfantine. À propos d'enfants, voici une anecdote qu'il nous livre dans son dictionnaire personnel au mot « écrivain ». Entendu cette définition par un enfant, ils habitent à la campagne et ils sont souvent morts. Autrement dit, en dehors de leurs livres, ils n'existent pas. Ce qui est juste, amer et exaltant. Ce soir, laissons donc parler les livres. Pour commencer, partons à l'aventure. Ouvrons cette fable, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Premier roman publié en 1967 chez Gallimard, récompensé par le Grand Prix du roman de l'Académie française. L'écrivain y développe une magnifique défense de la nature contre l'ordre rationnel de la civilisation et contre la violence des hommes. Nous voici au tout début du récit. Échoué sur une île inconnue, Robinson fait face à une inquiétante créature. Une vague déferla, courut sur la grève humide, et lécha les pieds de Robinson qui gisait face contre sable. À demi conscient encore, il se ramassa sur lui-même et rampa de quelques mètres vers la plage. Puis il se laissa rouler sur le dos. Des mouettes noires et blanches tournoyaient en gémissant dans le ciel céruléen où une trame blanchâtre qui s'effilochait vers le levant était tout ce qui restait de la tempête de la veille. Robinson fit un effort pour s'asseoir et éprouva aussitôt une douleur fulgurante à l'épaule gauche. La grève était jonchée de poissons éventrés, de crustacés fracturés et de touffes de varechs brunâtres. Au nord et à l'est, l'horizon s'ouvrait librement vers le large, mais à l'ouest, il était barré par une falaise rocheuse qui s'avançait dans la mer et semblait s'y prolonger par une chaîne de récifs. C'était là, à deux encablures environ, que se dressait au milieu des brisants la silhouette tragique et ridicule de la Virginie, dont les mâts mutilés et les haubans flottant dans le vent clamaient silencieusement la détresse. Robinson se leva et fit quelques pas. Il n'avait rien de brisé, mais une énorme ecchymose lui broyait l'épaule gauche. Quoi qu'il en soit, il convenait de se mettre à la recherche des éventuels rescapés du naufrage et des habitants de cette terre, si du moins elle était habitée. Comme il redoutait les rayons du soleil déjà haut dans le ciel, il se coiffa d'une fougère roulée en cornet, plante qui foisonnait à la limite de la plage et de la forêt. Puis il ramassa une branche pour s'en servir de canne et s'enfonça dans le taillis d'épineux qui couvrait le pied de promontoires volcaniques du sommet desquels il espérait pouvoir s'orienter. Peu à peu, la forêt s'épaissit. Aux épineux succédèrent des lauriers odoriférants, des cèdres rouges, des pins. Les troncs des arbres morts et pourrissants formaient un tel amoncellement que Robinson tantôt rampait dans des tunnels végétaux, tantôt marchait à plusieurs mètres du sol, comme sur des passerelles naturelles. L'enchevêtrement des lianes et des rameaux l'entourait comme d'un filet gigantesque. Dans le silence écrasant de la forêt, le bruit qu'il faisait en progressant éclatait avec des échos effrayants. Non seulement il n'y avait pas la moindre trace humaine, mais les animaux eux-mêmes semblaient absents de ces cathédrales de verdure qui se succédaient devant ses pas. Aussi songea-t-il à une souche à peine plus bizarre que d'autres, lorsqu'il distingua, à une centaine de pas, une silhouette immobile. Mais peu à peu, l'objet se transforma dans la pénombre verte en une sorte de bouc sauvage, aux poils très longs. La tête haute, les oreilles dardées en avant, il le regardait approcher, figé dans une immobilité minérale. Robinson eut un frisson de peur superstitieuse en songeant qu'il allait falloir côtoyer cette bête insolite, à moins de faire demi-tour. Lâchant sa canne trop légère, il ramassa une souche noire et noueuse assez lourde pour briser l'élan du bouc s'il venait à charger. Il s'arrêta à deux pas de l'animal. Dans la masse du poil, un grand œil vert fixait sur lui une pupille ovale et sombre. Robinson se rappela que la plupart des quadrupèdes, par la position de leurs yeux, ne peuvent fixer un objet que de façon en quelque sorte borgne et qu'un taureau qui charge ne voit rien de l'adversaire sur lequel il fonce. De la grosse statue de poil qui obstruait le sentier sortit un ricanement de ventriloque. Sa peur s'ajoutant à son extrême fatigue, une colère soudaine envahit Robinson. Il leva son gourdin et l'abattit de toutes ses forces contre les cornes du bouc. Il eut un craquement sourd, la bête tomba sur les genoux, puis bascula sur le flanc. C'était le premier être vivant que Robinson avait rencontré sur l'île. Il l'avait tué.
Je crois que ce n'est pas le rôle du romancier de se raconter. Le romancier doit nourrir ses personnages avec sa substance, mais il ne doit pas être l'un de ses personnages. Il doit être tous ses personnages. Le romancier doit projeter un univers, un monde, qui doit être un mythe. Je crois que le romancier fournit des modèles. Et ça, c'est, je crois, l'essence d'une certaine conception mythologique de la création littéraire. Alors, le modèle, pour jouer sa fonction, doit être renouvelé de génération en génération, rénové. C'est ce qui s'est produit avec Robinson Crusoe, c'est ce qui s'est produit avec Don Juan, on a réécrit des Don Juan indéfiniment, pour que ça reste le modèle. Que ce soit pas le modèle, par définition, il est devant, il n'est pas derrière. Enfin, pour que ça reste devant, il faut le réécrire.
Revenons en France sur les côtes normandes et découvrons deux autres naufragés. Voici un extrait du recueil de nouvelles « Le Médianoc amoureux » publié en 1989, toujours chez Gallimard. Le Médianoc est le nom d'un repas pris à minuit. Selon la tradition, chaque convive doit à son tour raconter une histoire merveilleuse. Écoutons ce récit intitulé « Les amants taciturnes ». C'était un clair matin de septembre, après une marée d'équinoxe qui avait donné à la baie un air dévasté, hagard, presque pathétique. Nous marchions sur une grève constellée de miroirs d'eau que faisaient frémir des poissons plats et jonchés de coquillages inhabituels, bulots, praires, ormeaux, palourdes. Mais nous n'avions guère le cœur à pêcher, nous regardions surtout dans la direction de la côte sud, voilée par un brouillard laiteux. Oui, il y avait du mystère dans l'air, presque du drame. Et j'ai été à peine surpris quand tu m'as montré, à une centaine de mètres, deux corps humains, enlacés, recouverts de sable. Nous avons aussitôt couru vers ce que nous prenions pour des cadavres de noyés. Ce n'étaient pas des noyés recouverts de sable. C'étaient deux statues sculptées dans le sable, d'une étrange et poignante beauté. Les corps se levaient dans une faible dépression, ceints d'un lambeau de tissu gris souillé de vase qui ajoutait à leur réalisme. On songeait à Adam et Ève avant que Dieu vînt souffler la vie dans leurs narines de limon. On pensait aussi à ces habitants de Pompéi dont on voit les corps minéralisés par la pluie de cendres du Vésuve, ou à ces hommes d'Hiroshima vitrifiés par l'explosion atomique. Leurs visages fauves, pailletés d'écailles, mi-cassés, étaient tournés l'un vers l'autre, séparés par une distance infranchissable. Seules leurs mains et leurs jambes se touchaient. Nous sommes demeurés un moment debout, devant ces gisants, comme au bord d'une tombe fraîchement ouverte. C'est alors qu'a surgi de quelques trous invisibles un drôle de diable, pied et torse nu, vêtu d'un blue jean effrangé. Il a entrepris une danse gracieuse avec de vastes gestes et des bras qui semblaient nous saluer, puis s'incliner vers les gisants comme pour les cueillir et les élever ensuite vers le ciel. La grève désertée par l'étale du gisant, la lumière pâle, ce couple de sable, ce fou dansant, tout cela nous entourait d'une fantasmagorie mélancolique et irréelle. Et soudain, le danseur s'est immobilisé, comme saisi par une extase, ou plutôt comme devant une apparition surgit dans notre dos. Nous nous sommes retournés. À droite, le rocher de Tomblaine émergeait de la brume, mais surtout, suspendu comme un mirage saharien au-dessus des nuées, le mont Saint-Michel brillait de toutes ses tuiles vermeilles, de tous les vitraux de sa pyramide abbatiale. Le temps s'était arrêté. Il fallait que quelque chose se produisît pour le remettre en marche. Ce fut un frisli qui me chatouilla les pieds. Une langue couronnée d'écume me lèche les orteils. En prêtant l'oreille, on perçoit le bruissement innombrable de la mer qui rampe sournoisement vers nous. Dans moins d'une heure, cet air immense, exposé nu au vent et au soleil, sera rendu aux profondeurs glauques et miséricordieuses. « Mais ils vont être détruits ? » t'es-tu exclamé. Le danseur s'inclina en signe d'approbation avec un sourire désolé. « Mes sculptures de sable vivent, affirma-t-il, et la preuve en est qu'elles meurent. C'est le contraire de la statuaire des cimetières qui est éternelle parce que sans vie. » Il nous expliqua qu'il sculptait ainsi fiévreusement des couples dans le sable mouillé tout juste découvert par le reflux. Mais le grand moment, c'était la terrible cérémonie de la destruction de l'œuvre. Alors il se leva d'un bond et mima le retour du flot, comme s'il voulait l'accompagner, l'encourager, le susciter même par sa danse. Les sorciers africains n'agissent pas autrement pour provoquer la pluie ou chasser les démons. Et la mer obéit, contournant premièrement les bords de la dépression où gisait le couple de sable, puis trouvant la brèche, laissant glisser un innocent doigt d'eau, puis deux, puis trois. Les mains jointes furent atteintes les premières, et elles se défirent, laissant en suspens le moignon des poignets coupés. Nous regardions avec horreur cette dissolution capricieuse et inexorable de ce couple que nous persistions à sentir humain, proche de nous, prémonitoire peut-être. Une vague plus forte s'abattit sur la tête de la femme, emportant la moitié de son visage. Puis ce fut l'épaule droite de l'homme qui s'effondra, et nous les trouvions encore plus émouvants dans leur mutilation.
Au fond, je n'ai jamais écrit que des contes. Le conte commence par...
Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse.
C'est-à-dire qu'on se situe d'emblée dans une temporalité, un niveau qui n'est pas le niveau trivial. Alors, ça n'est quand même pas la fable, ni l'allégorie. Parce qu'alors, dans la fable ou l'allégorie, la signification est évidente. Elle est là. Elle est noir sur blanc. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est transparent. La leçon est là. Si vous voulez, le roman tel que je l'entends, et qui est un véritable conte, Et les contes de ce recueil, Le Coq de Bruyère, ce sont des romans ou des nouvelles hantées, comme on dit des maisons hantées. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dedans, il y a quelqu'un dedans, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui. C'est translucide. Ça n'est pas transparent comme la fable, mais c'est translucide. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dedans et on ne sait pas quoi. Il y a une morale dans chacun de mes contes et dans chacun de mes romans, personne ne peut dire laquelle.
Après le roman d'aventure et la nouvelle, évoquons un conte initiatique à l'adresse des enfants. Comme Robinson, le couple du Mont-Saint-Michel éprouve la petitesse de l'homme face à la nature. Découvrons à présent un joli rite d'initiation. Parti à la recherche de son chat, surnommé Camicha, une petite fille, âgée de 10 ans, s'aventure pour la première fois hors du jardin de ses parents pour découvrir une autre nature inconnue. Voici l'histoire d'Amandine ou les deux jardins, publié en 1978 dans un recueil intitulé « Le Coq de Bruyère ». Dimanche. Bon, me voilà dans le jardin de Camichin. Il y a de hautes herbes qui m'arrivent jusqu'au nez, de grosses fleurs bizarres me caressent la figure. Elles sentent le poivre et la farine, une odeur très douce, mais aussi qui fait un peu mal à respirer. Impossible de dire si c'est une odeur bonne ou mauvaise. Les deux à la fois, on dirait. J'ai un peu peur, mais la curiosité me pousse. Tout ici a l'air abandonné depuis très très longtemps. C'est triste et c'est beau comme un coucher de soleil. Un tournant, un couloir de verdure encore, et j'arrive à une sorte de clairière ronde avec au milieu une dalle. Et assis sur la dalle, devinez qui ? Camicha en personne qui me regarde tranquillement venir à lui. C'est drôle, je le trouve plus grand et plus fort que dans le jardin de papa. Il ne vient pas à moi pour que je le caresse, non. Il se lève et marche tranquillement, la queue droite comme un cierge, vers l'autre bout de la clairière. Avant de pénétrer sous les arbres, il s'arrête et se retourne comme pour voir si je le suis. « Oui, Camicha, je viens. » Il ferme les yeux longuement d'un air satisfait et repart aussi calme. Je ne le reconnais vraiment plus. Ce que c'est d'être dans l'autre jardin, un vrai prince dans son royaume. Nous faisons ainsi des tours et des détours en suivant un sentier qui se perd parfois complètement dans les herbes. Et puis je comprends que nous sommes arrivés. Camicha s'arrête encore, tourne la tête vers moi et ferme lentement ses yeux d'or. Nous sommes à l'orée d'un petit bois, devant un pavillon à colonnes qui se dresse au centre d'une vaste pelouse ronde. Sous le dôme du pavillon, il y a une statue assise sur un socle. C'est un jeune garçon tout nu avec des ailes dans le dos. Il incline sa tête frisée avec un sourire triste et il lève un doigt vers ses lèvres. Chut ! Il a laissé tomber un petit arc et des flèches pendent le long du socle. Camicha est assis sous le dôme. Il lève la tête vers moi. Il a, comme le garçon de pierre, un sourire mystérieux. On dirait qu'il partage le même secret, un secret un peu triste et très doux, et qu'il voudrait me l'apprendre. C'est drôle. Tout est mélancolique ici. Ce pavillon en ruine, plein de fleurs sauvages, et pourtant je me sens une grande joie. J'ai envie de pleurer et je suis heureuse. Comme je suis loin du jardin bien peigné de papa et de la maison bien cirée de maman, est-ce que je pourrai jamais y revenir ? Je tourne brusquement le dos au garçon secret, à Camicha, au pavillon, et je m'enfuis vers le mur. Je cours comme une folle. Les branches et les fleurs me fouettent le visage. Quand j'arrive au mur, ce n'est bien sûr pas là où il y a l'échelle vermoulue du meunier. Enfin la voilà, le vieux poirier. Je saute, je suis dans le jardin de mon enfance. Comme tout y est clair et bien ordonné. Je monte dans ma petite chambre. Je pleure longtemps, très fort, pour rien. Comme ça. Et ensuite, je dors un peu. Quand je me réveille, je me regarde dans la glace. Mes vêtements ne sont pas salis. Je n'ai rien. Tiens, si, un peu de sang. Une traînée de sang sur ma jambe. C'est curieux, je n'ai d'écorchure nulle part. Alors pourquoi ? Tant pis. Je m'approche du miroir et je regarde ma figure de tout près. J'ai des yeux bleus, des lèvres vermeilles, des grosses joues roses, des cheveux blonds ondulés. Pourtant, je n'ai plus l'air d'une petite fille de 10 ans. De quoi ai-je l'air ? Je lève mon doigt vers mes lèvres vermeilles, j'incline ma tête frisée, je souris d'un air mystérieux, je trouve que je ressemble au garçon de pierre. Alors je vois des larmes au bord de mes paupières. Mercredi, Kamisha est devenu très familier depuis ma visite au jardin. Il passe des heures étendu sur le flanc au soleil. À propos, je le trouve bien rond. De jour en jour, plus rond. Ça doit être une chatte. Kamichatte.
J'étais dans une école religieuse et une petite fille me dit « Croyez-vous en Dieu ?» Dur, hein ? Il fallait répondre. J'ai dit oui, parce que la musique de Jean-Sébastien Bach m'y oblige. Parce que je l'écoute tous les jours, Jean-Sébastien Bach. Et quand on entend Jean-Sébastien Bach, la foi religieuse est tellement inhérente à sa musique qu'on est obligé de le suivre. Donc, aussi longtemps que j'entends Jean-Sébastien Bach, j'ai la foi.
Après la magnifique voix de Nathalie Dessay, découvrons une autre voix célèbre. Avant de commencer à écrire à l'âge de 42 ans, Michel Tournier travaille dans l'édition comme traducteur et fait carrière à la radio. Voici un extrait d'une autre nouvelle publiée dans le recueil « Le coq de Bruyère ». Elle s'intitule « Tristan Vox » et met en scène l'étrange destin d'un célèbre animateur de radio. Cette histoire se passe il y a bien peu d'années, à une époque qui paraîtra pourtant préhistorique aux jeunes d'aujourd'hui. En ce temps-là, en effet, la télévision n'existait pas encore. C'était la radio qui étendait son empire sur les esprits et enfiévrait les imaginations. Pour rester sans visage ni regard, les voix n'en avaient que plus de mystère, et leur magie agissait avec une efficacité parfois redoutable sur les hommes et les femmes à l'écoute. Le plus célèbre de tous était sans conteste le pathétique Tristan Vox, dont la voix, partant d'un petit studio obscur des Champs-Élysées, berçait et exaltait à la fois des millions de cœurs solitaires chaque soir de 22h à minuit. Comment expliquer la magie de cette voix ? Certes, il y avait en elle une gravité caressante et veloutée qui relevait une fêlure, une cassure, quelque chose de blessé. Cette rossité tristanienne, c'était bien autre chose que la rossité aznavourienne qui vint plus tard et qui fit d'un petit chanteur arménien l'une des idoles du music hall. Encore une fois, à cette époque, la radio avait sur la télévision l'immense privilège de s'adresser aux yeux de l'âme et non à ceux du corps. L'homme de télévision n'a que le visage qu'il a. L'homme de radio avait le visage que lui prêtait la foule de ses auditeurs et de ses auditrices. Or, chose étrange, un certain consensus apparaissait à travers les innombrables lettres que recevait Tristan Vox. L'image qu'on se faisait généralement de lui, d'après sa voix, était celle d'un homme, dans sa seconde jeunesse, grand, mince, souple, avec une masse de cheveux châtains indomptés, qui atténuait par leur flou romantique ce que son visage tourmenté, aux pommettes un peu hautes, aurait pu avoir de sombre, malgré la douceur de ses grands yeux mélancoliques. Tristan Vox s'appelait en réalité Félix Robinet. Il approchait la soixantaine, il était petit, chauve et bedonnant. Au terme d'une médiocre carrière de comédien comique, qu'il avait promené au gré de tournées théâtrales dans toutes les sous-préfectures de France, il avait été soulagé de trouver une situation stable et sédentaire comme speaker à la radio. Sa voix, qui en 40 ans de théâtre n'avait jamais ému personne, soulevait les foules dès lors qu'elle passait par le canal d'un micro. C'est là une des loufoqueries du destin. Il fut convenu que tous les ponts seraient coupés entre Vox et Robinet. Aucune personne étrangère à la station ne serait admise dans le studio. Aucune photographie de Robinet ne serait divulguée. Pas d'apparition en public, gala, cocktail ou autre. Ses relations avec l'extérieur, courrier, téléphone, rendez-vous, seraient filtrées avec le plus grand soin par sa secrétaire, la maigre et chevaline Mademoiselle Flavie. C'était sur elle que venait se briser le flot du courrier matinal, l'artillerie lourde des cadeaux et l'assaut intempestif des visiteurs et visiteuses. Robinet s'imaginait qu'en coupant ainsi tous les fils qui le reliaient à Vox, l'inexistence de ce dernier suffirait à le rendre inoffensif. Or, chaque mercredi paraissait un hebdomadaire radiophonique très en vue, Radio Hebdo, qui publiait, outre les programmes de la semaine à venir, tout un supplément photographique concernant les vedettes du micro. Le rédacteur en chef se demanda pourquoi l'édition ordinaire s'épuisa cette semaine-là en quelques heures. Il fit procéder à un nouveau tirage et mena une petite enquête. La clé du mystère se trouvait dans un coin d'une page magazine. En marge des programmes, on avait publié un portrait, celui d'un homme encore jeune, aux pommettes un peu hautes, aux grands yeux mélancoliques et à la chevelure châtaine indomptée. Or, par suite d'une inconcevable bévue, on avait imprimé sous cette photo le nom de Tristan Vox, alors que c'était celle d'un certain Frédéric Durato, finaliste de la Coupe du Tennis Club de Nanterre. Robinet n'ouvrait jamais un journal et ce fut le directeur de la station qui le mit au courant de l'incident. Celui-ci s'efforça pourtant de le rassurer. La publication d'une photo qui ne ressemblait en rien à la sienne ne pouvait qu'achever d'égarer le public et renforcer son incognito. Ce visage ne serait qu'un masque derrière lequel il resterait parfaitement invisible. Robinet fit dès lors le dos rond, présageant une nouvelle catastrophe. Elle se produisit le lundi suivant. Comme Robinet se présentait au studio quelques minutes avant le début de son émission, il vit venir à lui Mademoiselle Flavie dans un état d'agitation dont il ne l'aurait jamais cru capable. « Monsieur, monsieur !» s'écria-t-elle, « il est là !»« Qui est là ?» demanda Robinet. Il posa cette question parce qu'elle s'imposait, mais il savait bien, hélas, de qui il s'agissait. « Mais Tristan Vox !» s'exclama Mademoiselle Flavie. Robinet se laissa tomber sur une chaise. Ainsi donc, l'instant attendu avec terreur depuis des mois était arrivé. Celui de sa confrontation avec un personnage imaginaire, tiré de lui-même, et notamment de sa voix, invoqué 2 heures par jour devant une foule immense, fécondée et chargée de réalité par les rêves de cette foule, citée à paraître, à comparaître par lui, Robinet, et donc voué forcément à s'incarner un jour ou l'autre. Où est-il ? Finit-il par articuler. Il attend dans le bureau. Robinet nota fugitivement qu'elle avait dit non pas votre bureau, mais le bureau. Bientôt, sans doute, dirait-elle son bureau. Il réagit brusquement. Mon émission commence dans 2 minutes, dit Robinet. Dites-lui. Ouais, et puis ça m'est égal. Faites-en ce que vous voulez, cria-t-il avant de s'installer à son micro. 2 heures plus tard, il sortit du studio dans un état proche de la prostration. Il se dirigea vers son bureau en priant Dieu que l'intrus fût parti. Il était toujours là. Il entra dans le bureau comme on se jette à l'eau, serra la main du visiteur et s'assit en face de lui. « Alors ?» dit-il pour tout entrer en matière. « Alors ?» répéta Durato un peu surpris. « Alors quoi ? Alors bravo ? Oui, Tristan Vox, bravo ! Voulez-vous que je vous dise ? Eh bien, en vous écoutant, j'étais fier. » Fier, s'étonna Robinet, fier de quoi ? Fier ? Ben, tout simplement fier d'être Tristan Vox. Car vous êtes Tristan Vox ? Ah, cher monsieur, croyez bien que je ne l'ai pas cherché. Non, je n'ai rien demandé à personne, moi. Bien seulement 8 jours, j'ignorais jusqu'à son existence, à ce monsieur Tristan Vox. Et puis voilà brusquement que ma photo est dans tous les journaux, et je ne peux plus mettre le nez dehors sans qu'on me demande des autographes, de l'argent, des conseils, de l'amour, que sais-je. Vous trouvez que c'est une vie, ça ? Alors là, je ne comprends plus à voix Robinet. Vous êtes venu me féliciter ou pour vous plaindre ? J'étais venu, je l'avoue, pour vous demander des comptes. Pour vous dire que vous n'aviez pas le droit de vous verser comme ça à la vie d'un homme qui ne vous a rien fait. Enfin, j'écoute Tristan Vox, et en somme, je m'écoute moi-même, dans la très grande mesure où tout le monde me l'affirme, je suis Tristan Vox, et je me trouve fichtrement bien. Drôle d'impression, je vous le jure. Pas seulement pour vous, remarqua Robinet. Il y eut un silence. Un ange passe, observa encore Robinet, toujours sarcastique. Un ange, reprit Durato. Entre nous, un ange ne passe pas. Un ange se dresse, radieux, incorruptible, génial, généreux, terrible de pureté et de puissance. L'ange Tristan Vox. Et cet ange, c'est moi. Oh non, j'en ai assez, moi, cria Robinet. Vous êtes complètement fou. Et je vous soupçonne d'être contagieux. Félix Robinet réfléchissait à toute allure. À la vérité, il avait fait preuve d'imprévoyance. Pendant des années, il avait travaillé chaque soir à faire naître un personnage idéal, doué de tous les charmes, personnage imaginaire, certes, mais non pas, comme il l'avait cru, inexistant. Tout ceci avait provoqué une précipitation, une concrétion humaine, laquelle en l'occurrence s'appelait Frédéric Durato. Dans toute cette affaire, Robinet avait joué les apprentis sorciers, provoquant sa propre perte pour avoir manipulé en toute inconscience des forces qui le dépassaient. Que faire maintenant ? Arrêter les frais. Il faut fermer le robinet, pensa Robinet, sans même songer au jeu de mots sur son propre nom dont on lui avait rebattu les oreilles pendant toute sa vie. Ce soir-là, Félix Robinet eut le pressentiment qu'il ne parlerait sans doute plus jamais devant un micro. Il en eut la confirmation quelque temps plus tard, en allumant sa radio à l'heure habituelle de son émission. Robinet tendit l'oreille, il n'entendit qu'un nom, celui de l'homme dont la voix chaude, juvénile et sympathique allait retentir à nouveau, Tristan Vox.
La philosophie pour vous, ça a été toute votre vie, dès la jeunesse d'ailleurs.
Ah, ça a été capital. Ça a été le fil conducteur, un petit peu le drame, parce que j'aurais voulu être un philosophe. L'agrégation n'a pas voulu de moi, je ne le lui pardonne pas. Et alors j'ai décidé de me reconvertir à la littérature. À partir du moment où on ne peut plus s'adresser à des confrères en philosophie, où il faut s'adresser au grand public, je crois qu'il n'y a que la littérature. Et alors mon problème, c'était de conserver les armes, les instruments de la philosophie, de la métaphysique, et qui sont des armes extrêmement puissantes, mais de faire avec cela de la littérature. Si vous voulez, c'est un petit peu le même problème. Supposez un militaire qui ferait des bombes atomiques, qui n'aurait pas le droit de s'en servir, et qui se dirait « bon, ben, je vais utiliser ces bombes atomiques pour faire marcher des automobiles ». Il y aura un problème terrible. Que faire de cette immense énergie ? Comment la convertir en une énergie domestique ? Eh bien, moi, mon problème, c'était comment convertir l'énergie métaphysique en un courant d'images.
Évoquons à présent une autre figure du double, les jumeaux. Passionné par ce couple singulier, Michel Tournier leur consacre un roman fascinant, « Les Météores », publié en 1975, où il revisite le mythe de Castor et Pollux. Jean et Paul sont deux frères jumeaux. Mais lorsque Jean souhaite mener sa vie et se marier, Paul fait tout pour faire échouer ce projet. Désespéré, Jean part seul en voyage de noces à Venise. Paul se lance à sa poursuite, et c'est le début d'un long voyage initiatique. C'est aussi l'occasion pour Paul de développer une réflexion philosophique sur la gémellité, lien à la fois ogresque et innocent. Dans le passage suivant, il s'adresse à distance à celui qu'il appelle son frère pareil. Je suis notre histoire heure par heure, et je cherche, et je dresse l'inventaire de tout ce qui t'est advenu, mon frère pareil, tout ce qui a déposé en toi les germes de discorde, destinés plus tard, des années plus tard, à faire éclater la cellule gémellaire. Écoute cette merveille et mesure ses immenses implications. Tout homme a primitivement un frère jumeau. Toute femme enceinte porte deux enfants dans son sein, mais le plus fort ne tolère pas la présence d'un frère avec lequel il faut tout partager. Il l'étrangle dans le ventre de sa mère et l'ayant étranglé, il le mange. Puis il vient seul au monde, souillé par ce crime originel, condamné à la solitude et trahi par le stigmate de sa taille monstrueuse. L'humanité est composée d'ogres, des hommes forts, oui, avec des mains d'étrangleurs et des dents de cannibales. Et ces ogres, ayant par leur fratricide originelle déclenché la cascade de violences et de crimes qui s'appelle l'histoire, errent de par le monde éperdus de solitude et de remords. Nous seuls, tu m'entends ? Nous sommes innocents. Nous seuls, nous sommes venus au monde la main dans la main. et le sourire fraternel aux lèvres. Malheureusement, le monde des ogres dans lequel nous sommes tombés nous a aussitôt investis de toutes parts. Te souviens-tu dans notre enfance bretonne de cette ancre de goélette à demi enlisée que seules les grandes marées d'équinoxe découvraient ? Chaque fois, nous la trouvions plus corrodée, plus rongée, plus surchargée d'algues et de petits coquillages, et nous nous demandions combien d'années s'écrouleraient encore avant que l'eau et le sel eussent raison de ce grand être d'acier forgé pour défier le temps. Les jumeaux tombés du ciel sont semblables à cette ancre. Leur vocation est une éternelle jeunesse, un éternel amour. Mais l'atmosphère corrosive des sans-pareils, condamnés par leur solitude à des amours dialectiques, cette atmosphère s'attaque au pur métal génélaire. Nous ne devions pas vieillir, le savais-tu ? Le vieillissement est le sort mérité des sans-pareils, tenus de laisser la place un jour à leurs enfants. Couple stérile et éternel, unis dans une étreinte amoureuse perpétuelle, les jumeaux, s'ils restaient purs, seraient inaltérables, comme une constellation. J'étais préposé à la garde de la cellule gémellaire. J'ai failli à ma vocation. Les sans-pareils t'ont fait des signes pour te séduire. Dès lors, tu étais voué à la désertion. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je me demande ce que les sans-pareils peuvent entendre à ce commandement primordial de la morale chrétienne. Inintelligible paradoxe pour le sans-pareil qui ne peut concevoir d'amour de soi que dans une égoïste revendication de son intérêt personnel. Tandis que nous, le mouvement qui nous emporte hors de nous, l'essor de notre jeunesse, le don de nos forces vives, c'est d'abord et principalement et exclusivement aux frères pareils qu'elle va. Rien n'est retenu, tout est donné, et pourtant rien n'est perdu, tout est gardé, dans un admirable équilibre entre l'autre et le même. Aimer son prochain comme soi-même, cet impossible gageur exprime le fond de notre cœur et la loi de ses battements.
Nous voulons offrir à tous les bienfaits du rail. Et c'est là que ton intervention sera appréciable. Tu es un garçon ordinaire, ils le verront. C'est la situation idéale, tu comprends? Je compte sur toi.
Il m'a dit que j'étais un garçon ordinaire. Parce qu'il ne sait pas que je suis sorti des brumes du temps. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de magique dans ma nature.
Le fascisme et le nazisme s'adressent aux enfants. N'est-ce pas? Ce sont des systèmes qui sont obsédés par l'enfance, en tout cas par la jeunesse. Et je dirais même plus, tout système politique qui s'intéresse un peu trop à la jeunesse est au fond un système fasciste.
Après le thème du double, découvrons un autre personnage récurrent dans l'œuvre de Michel Tournier, la figure de l'ogre. Dans Vendredi, Robinson lutte contre l'angoisse dévorante de la solitude. Dans Pierrot ou Les secrets de la nuit, Pierrot et Arlequin dévorent le corps brioché de Colombine. Dans Les météores, les jumeaux Jean et Paul croisent un inquiétant géant qui n'est autre que le héros d'un autre roman, Le roi des Aulnes. Pris Goncourt en 1970, ce roman évoque le destin terrifiant d'un garagiste parisien, Abel Tiffauges, pendant la Seconde Guerre mondiale. Fait prisonnier par les Allemands en 1940, il est promu à la tête d'une école nazie en Pologne, où il laisse libre cours à ses penchants pervers. Mais au moment de la débâcle, le tyran décide de sauver un enfant juif, le dernier survivant de l'école, espérant ainsi réparer ses fautes. Voici la toute fin du livre, sous forme de parabole biblique. Fuyant l'avancée des chars russes, Tiffauges emporte Ephraïm dans ses bras, à travers la plaine marécageuse, comme dans le célèbre poème de Goethe, Le roi des Aulnes. Une explosion fit vaciller la terrasse, pulvérisa la chapelle, et une grêle de pierrailles et de tuiles mitrailla Tiffauges et Ephraïm. « Ephraïm, dit Tiffauges, je n'ai plus mes lunettes, je ne vois presque plus rien, guide-moi. Ce n'est rien, cheval d'Israël, je vais te prendre par les oreilles et te guider. » Un chapelet de balles traçantes s'égrena en larmes de feu au-dessus des arbres. « Ephraïm, je vois un point fermé dans le ciel noir. Il se serre et il en sourd des gouttes de sang. Allons-nous-en, Béhémoth. » Tiffauges obéit docilement et ne fut plus dès lors qu'un petit enfant entre les pieds et les mains du porte-étoile. Comme un naufragé en plein océan qui nage d'instinct, sans espoir de salut, il accomplissait tous les gestes qui auraient pu le mener à la sauveté sans croire un instant qu'il y réchapperait. Il traversa le village éclairé par les maisons qui brûlaient comme des torches, puis l'obscurité se referma sur lui. Il avança encore quelques minutes, aveugle, quand Ephraïm lui tira brusquement les deux oreilles. « Arrête, Béhémoth, écoute !» Il s'arrêta, il écouta, Dans le silence nocturne, le cliquetis multiple et argentin des chenilles d'une colonne de chars en déplacement leur parvenait avec une précision menaçante. « Il faut quitter la route, » décida Ephraim. « Tu vas prendre à gauche, par la lande. Nous contournerons la colonne de chars. » Sans discuter, Tifauge obliqua vers le talus, s'enfonça dans les congères boueuses qui le bordaient et sentit sous ses pieds le sol mou et traître de la brande. Un arbuste lui griffa le visage et il s'avança dès lors, les bras tendus en avant comme un aveugle. Il marcha longtemps ainsi, au point que le pilonnage de la route ne fut plus à ses oreilles qu'une vague et orageuse rumeur. Peu à peu, le sol devenait spongieux sous ses pieds, et il devait faire effort à chaque pas pour les arracher à sa succion. Puis ses mains rencontrèrent les branches et les troncs d'un petit bois, et il reconnut l'aulne noire des marécages. Il voulut s'arrêter, faire demi-tour, mais une force irrésistible le poussait aux épaules. Et à mesure que ses pieds s'enfonçaient davantage dans la landèche gorgée d'eau, il sentait l'enfant, si mince, si diaphane pourtant, peser sur lui comme une masse de plomb. Il avançait et la vase montait toujours le long de ses jambes, et la charge qui l'écrasait s'aggravait à chaque pas. Il devait maintenant faire un effort surhumain pour vaincre la résistance gluante qui lui broyait le ventre, la poitrine, mais il persévérait, sachant que tout était bien ainsi. Quand il leva pour la dernière fois la tête vers Ephraim, il ne vit qu'une étoile d'or à 6 branches qui tournait lentement dans le ciel noir.
Détourne, gentil berger, tes yeux du vallon noir, où je me tiens vautré, un jeune saule aux lèvres, rentrant ta bergerie, tes moutons et tes chèvres. Je suis nu et j'ai soif, il fait trop chaud ce soir. D'autres qui viendront quand s'allumera la lune. Explorer les taillis de mes 4 toisons feront mon escalade comme de jeunes oiseaux. Glissant entre mes seins, si contre de dunes, nul besoin de guitare, de bouquet ni de gants pour obtenir de moi des voluptés confuses. Je suis ouverte à tous, il suffit que l'on use de mon ventre comme d'un luxurieux toboggan. Ben oui, quoi, je suis la géante du vallon noir, celle qui vous affole et qui hante dans les chaumières et les manoirs. Volubiles, ahurissantes. Ben oui, quoi, je suis la géante. Si je les ai tous eus, je n'en regrette qu'un, qui n'était brute épaisse, ni seigneur mirifique, mais simple entiché d'art cinématographique. Oh, combien je l'aimais, le cher petit rouquin. Je nous revois encore au sommet de la tour, notre ultime refuge à l'abri des humains. Il était étendu dans le creux de ma main, et je le protégeais du lourd vol des vautours. Il m'avait proposé de me faire un marmot à l'issue d'une nuit choisie pour la plus longue. Il me baisait partout et m'appelait Queen Kong. Hélas, il est tombé en répétant ce mot. Ben oui, quoi, je suis la géante du vallon noir, celle qui vous affole et qui hante dans les chaumières et les manoirs. Aux libidos ahurissantes. Ben oui, quoi, je suis la géante.
Et voici pour conclure le rôle de l'écrivain selon Michel Tournier. Dans son recueil de nouvelles, Le Médianoc amoureux, l'écrivain relate une visite qu'il a rendue à des prisonniers, occupés pendant leur détention à des travaux de menuiserie. Voici le dialogue qui s'est déroulé entre eux. Une table, une chaise, on sait à quoi ça sert, mais un écrivain, c'est utile ? Il fallait bien que la question fût posée. Je leur dis que la société est menacée de mort par les forces d'ordre et d'organisation qui pèsent sur elle. tout pouvoir, politique, policier ou administratif et conservateur. Si rien ne l'équilibre, il engendrera une société bloquée, semblable à une ruche, à une fourmilière, à une termitière. Il n'y aura plus rien d'humain, c'est-à-dire d'imprévu, de créatif parmi les hommes. L'écrivain a pour fonction naturelle d'allumer par ses livres des foyers de réflexion, de contestation, de remise en cause de l'ordre établi. Inlassablement, il lance des appels à la révolte, des rappels au désordre, parce qu'il n'y a rien d'humain sans création, mais toute création dérange. C'est pourquoi l'écrivain est si souvent poursuivi et persécuté. Et je citais François Villon, Germaine de Staël, Victor Hugo, et Jules Vallès, et Solzhenitsyn, et bien d'autres. Il faut écrire debout, jamais à genoux. La vie est un travail qu'il faut toujours dire debout, dis-je enfin. On se sépara. Ils me promirent de m'écrire. Je n'en croyais rien. Je me trompais. Ils firent mieux. 3 mois plus tard, une camionnette du pénitencier s'arrêta devant ma maison. On ouvrit les portes arrière et on en sortit un lourd pupitre de chêne massif, l'un de ces hauts meubles sur lesquels écrivaient jadis les clercs de notaire, mais aussi Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Il sortait tout frais de l'atelier et sentait bon encore les copeaux et la cire. Un bref message l'accompagnait, pour écrire debout de la part des détenus de Cléricourt.
Si on avait demandé à la vieille théologie quelle est la différence entre l'homme et l'animal, elle vous aurait dit c'est que l'homme a une âme et l'animal n'a pas d'âme. Si on demande à la psychanalyse moderne quelle différence il y a entre l'homme et l'animal, le psychanalyste vous répond c'est que l'homme a une enfance. Alors que l'animal n'a pas d'enfance. Ça veut dire simplement que l'enfant, c'est l'âme de l'homme.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission en public du Salon du Livre Paris a été réalisée par Anne-Sophie Ladonne et Xavier Pestugia avec à la technique Georges Thau, Tanguy Le Corneau. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Valérie Bourg. La semaine prochaine, nous ouvrirons un cycle consacré à 3 grands romans d'Honoré de Balzac. Bonne soirée. Merci.